Tribu, Julien Magnolet.
Bonjour et bienvenue dans Tribu. L'historien, dit-on, décortique le passé pour mieux comprendre le présent. Sa science se veut la plus objective et impartiale possible. Mais est-il vraiment indépendant du pouvoir en place? Peut-il s'affranchir entièrement des gouvernements, des politiques? Comment l'État se sert de l'histoire à son profit? Ce matin, je vous propose de nous pencher sur le rapport entre les historiens et le pouvoir. Bonjour Sacha Zala.
Bonjour.
Vous êtes président de la Société Suisse d'Histoire et directeur des documents diplomatiques suisses. Merci d'être en direct avec nous ce matin. Alors Sacha Zala, juste un petit mot. Vous êtes un Suisse assez... Pour ça montre la Suisse dans toute sa diversité. Vous êtes un italophone des Grisons.
Oui, je suis né à Poschiavo en 1968, donc j'ai fait toutes mes écoles en italien. Et après, dans les Grisons, on peut pas faire la maturité en italien, j'ai dû la faire en allemand. Et après, j'ai décidé de faire l'école recrue à Fribourg, et comme ça j'ai pris un peu en français de caserne, mais je cherche de débrouiller aujourd'hui.
En français de caserne. Et vous travaillez aujourd'hui donc à Berne, notamment comme directeur des documents diplomatiques suisses. Alors, Sacha Zala, quel rapport en Suisse entre les historiens et le pouvoir? Je crois que ça a évolué un peu au fil des décennies.
Oui, naturellement, c'est un rapport très subtil, très complexe, et c'est pas seulement une question liée à la Suisse, mais c'est lié un peu à la constitution de l'histoire comme matière scientifique, comme discipline scientifique. L'histoire se constitue comme discipline scientifique que dans le 19e siècle, et là, il y a ce premier rapport avec les sources. Donc, jusqu'à là, l'histoire, l'historiographie, c'est déjà les Grecs qui faisaient de la guerre péloponnèse, donc c'est même la Bible, si on pense à l'Ancien Testament, tout. Et l'histoire est inhérente à l'être humain, mais, disons, était très proche du pouvoir, donc il n'y avait pas une historiographie indépendante, mais il y avait plutôt des chronistes qui racontaient les grands actes héroïques des rois, des empereurs. Et donc il y a fallu beaucoup de temps pour établir des règles méthodiques, scientifiques, pour rendre indépendante l'histoire. Et ça, c'est justement au 19e siècle quand on découvre les sources, pour ainsi dire, et l'accès aux archives. Naturellement, ce ne sont pas les sources immédiates. Ce ne sont pas les sources de l'histoire contemporaine. Pour cela, il faut encore attendre une centaine d'années jusqu'à les années 20 du 20e siècle. Mais ce sont, disons, les sources du Moyen-Âge. Mais au moins, disons, une histoire qui cherche de se construire objectif au-delà des intérêts immédiats du pouvoir.
Donc les sources, pour ceux qui ne sont pas historiens, donc c'est les textes, enfin tout ce qui permet à l'historien de travailler avec quelque chose de premier, du matériau premier. Mais encore au 19e siècle, Sacha Zala, l'historien est assez proche du pouvoir. Il y a une utilisation, vous m'aviez dit, de l'historien pour construire cette nation qui est encore assez neuve, hein, la Suisse.
Oui, pas seulement la Suisse, disons le 19e siècle, c'est le siècle du nationalisme, donc il y a un changement de la logique légitimatoire du pouvoir. Le pouvoir est plus légitimé à travers le souverain, le roi, l'empereur, à travers Dieu, pour finir, mais il y a un nouveau élément, c'est la nation, et c'est la nation qui va se constituer. Si on pense après à la Première Guerre mondiale, à la chute des grands empires et à la naissance de nouveaux nations. Et c'est justement dans ce contexte européen très large, ce sont les historiens qui inventent la nation, pour ainsi dire, qui vont découvrir un passé glorieux des entités étatiques qu'il n'y avait jamais eu dans le passé. Donc, par exemple, il y a Francis Plaske au 19e siècle, qui est un historien tchécoslovaque, qui construit l'histoire de la nation tchèque et qui est constitutif après ça pour légitimer à Versailles en 1919 la naissance de la Tchécoslovaquie comme État indépendant.
Et en Suisse, il y a le pacte de 1291.
Oui. Et la Suisse est extrêmement intéressante parce que l'État fédéral est construit sur une guerre civile, la guerre du Sonderbund. Et donc 1848 n'est pas très idéal pour avoir un narratif identitaire.
Donc je le rappelle juste, le Sonderbund, c'est cette guerre pour faire gros, en gros, entre cantons protestants et catholiques.
Juste, et les libéraux protestants gagnent et construisent ce nouveau État libéral, notre Suisse moderne. Et naturellement, c'est pas un bon moment de rappeler qu'il y a la moitié qui a perdu. Et donc, c'est bien de projeter une naissance de la nation dans un passé imaginaire très loin. Et c'est justement là que les historiens redécouvrent cette source de 1291. Et en vérité, la première fois qu'on fête le 1er août, c'est en 1891 qu'on fête les 600 ans de la Confédération, qui sont une invention, et c'est la première fois qu'on le fait, et qui sont super importants pour légitimer une nation au-delà justement des fractures religieuses. On est là dans le Moyen-Âge, bien avant la Réformation, donc il n'y a pas de problème. Mmh. Et donc là, on arrive à construire un mythe commun qui va marcher, qui sert bien jusqu'à aujourd'hui pour tenir ensemble une construction étatique qui est assez hétérogène comme la Suisse.
Mmh. On l'a dit tout à l'heure, avec des cantons où l'on parle de langue, où il y a plusieurs religions parfois. Vous dites que c'est les historiens qui inventent la nation. Mais est-ce que c'est eux qui ont décidé d'inventer la nation en toute indépendance, ou est-ce que le pouvoir en place, à l'époque, leur a fortement conseillé de se pencher sur cette question-là?
Alors, il est évident que les historiens ne sont pas extemporaires ou ils sont en dehors de la société. Donc, il y a un historien italien, Benedetto Croce, qui une fois a dit « toute histoire est histoire contemporaine », même si on fait, si on veut ainsi dire, l'histoire des Grecs, si on a fait l'histoire de l'Empire romain pendant le fascisme, c'était plutôt de l'histoire de l'Empire fasciste que de l'histoire romaine, vous voyez. Donc, il y a toujours les contingences. Mais il y avait, disons, dans cet âge du nationalisme, l'intention de légitimer avec une nouvelle discours, c'est le discours national, ethnique, lié à la culture, aux langues, et donc dans cette disons univers intellectuel qui s'établit, et les historiens ont fait ça. C'était pas, disons, des tâches payées. C'était la société qui avait un univers mental tel pour construire ça. Quand on parle du pouvoir et des historiens, donc il y a toujours des rapports très subtils et très intéressants. Il faut jamais, en tout cas, oublier que le pouvoir a des moyens très forts pour contrôler l'historiographie, et ça, c'est notamment l'accès aux archives.
Mmh. Donc, et vous êtes bien placé pour en parler, vu que vous occupez des documents diplomatiques suisses, qui sont donc un lieu où on étudie les archives conservées aux archives nationales à Berne.
Oui. Les documents diplomatiques suisses sont un institut de l'Académie suisse des sciences sociales et morales, donc on est un institut de la libre recherche, donc nous avons le même accès que les autres chercheurs, naturellement, qui est basé sur une loi fédérale, c'est la loi fédérale sur l'archivage. Et aujourd'hui en Suisse, cette loi fédérale prévoit plus ou moins qu'après un délai d'attente, que la loi définit comme de protection, entre guillemets, de 30 ans, les archives devrait être accessible. Après, il y a des exceptions qui sont prévues dans la loi qui rendent le travail des historiens assez difficile.
Oui, il y a eu quelques exemples fameux, notamment sur certaines archives concernant l'Afrique du Sud.
Oui.
Comment est-ce qu'on a parlé du passé, du rapport de l'historien au 19e siècle, début du 20e, et aujourd'hui, Sacha Zalac? Quel est-il, ce rapport entre l'historien et le pouvoir? Il est pacifié? Est-ce que l'historien est le laquais du pouvoir? Ou au contraire, est-ce qu'il le critique? Quelle est sa position aujourd'hui?
Il y a eu, après la Deuxième Guerre mondiale, un développement vers ce qu'on appelle une historiographie critique. L'histoire critique, donc il y a eu une ouverture thématique très large qui est parti en France avec l'école des annales dans les années 20, donc la découverte de l'histoire sociale, l'histoire aussi, pas seulement des classes dirigeantes, des classes, des élites, mais aussi l'histoire des couches sociales inférieures. Donc il y a vraiment eu un élargissement énorme de l'histoire, et il y a eu un processus très fort d'émancipation de l'histoire, à tel point que aujourd'hui, moi je dirais même que les historiens ils ont que le pouvoir qui est à l'époque aimait beaucoup les historiens qui légitimaient la nation, ils ont de plus en plus problèmes avec les historiens qui sont perçus comme trop critiques. Il est aussi vrai que après la moitié des années 90 avec la question des fonds déshérence et après il y a eu la question par exemple de Projuntut, Kinderlandstrasse, etc.
Ils en sont placés.
Oui, et tous ces phénomènes-là, il y a eu une le passé a été chargé dans une manière assez négative, donc on a toujours des problèmes quand on parle du passé, et après qu'on a des problèmes, ce sont un peu les historiens qui doivent venir à faire de l'ordre. Et cela a donné une connotation assez négative à l'histoire que je déplore, parce que l'histoire est très une histoire objective, critique, est très importante pour comprendre le passé. Et donc, malheureusement, j'ai un peu l'impression que des nouvelles sciences, qui à l'époque étaient un peu à la mode, dans les années 60, par exemple la science politique qui était inventée là, qui a constitué une multitude d'experts qui aujourd'hui sont dans l'administration, qui font les expertises et qui sont très proches du pouvoir. Donc, ma thèse serait que la fonction qui au 19e siècle était prise par les historiens de légitimer le pouvoir, aujourd'hui est prise par des autres sciences qui sont beaucoup plus près du pouvoir, comme par exemple la science politique, la sociologie et toutes sortes d'experts qui sont utilisés par l'administration.
Et qui travaillent au sein de l'administration ?
Oui, au sein, dedans, vous savez, la définition d'expert, c'est toujours le point de vue.
Sacha Zala, nous parlons du rapport entre le pouvoir et l'histoire ce matin avec vous. On vous retrouve dans 4 petites minutes.
About there's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
Oh,
History Repeating, l'histoire qui se répète, ce sont les Anglais de Propeller Heads. On vous retrouve, Sacha Zala. Nous parlons donc du rapport des historiens et du pouvoir. Et vous disiez, ben voilà, aujourd'hui, les historiens, ils ont un peu mauvaise presse. Et est-ce que ça explique, notamment depuis l'affaire des fonds des errances, le rapport Bergier, on se rappelle que ça avait été pas mal critiqué. Est-ce que ça explique, on a l'impression comme ça, que les historiens sont très peu présents dans le débat public? Alors, si vraiment il faut aller les chercher, on va les chercher, mais c'est des gens qu'on voit assez peu, finalement, dans les médias.
Bon, moi, je suis là.
Vous êtes là, heureusement.
On ne peut pas me critiquer. Il faut, je crois, voir que l'histoire est très présente dans la société. On a une société où l'histoire est presque omniprésente, je pense, dans le discours politique, dans les médias tout le temps. Il y a même des videogames, on peut faire des jeux d'histoire, Moyen-Âge, les romans, il y a tout. Donc, je pense que jamais avant, l'histoire était tellement présente. Et il y a un besoin énorme, ça c'est inhérent à l'être humain, de connaître son histoire. Le problème, c'est que, à différence, par exemple, de la physique quantistique, les historiens n'ont pas l'exclusivité, l'apanage total de l'histoire. Ils sont seulement un acteur, un agent, en concurrence avec deux autres acteurs. Alors, je pense notamment, naturellement, toute la politique qui fait un usage politique de l'histoire. On se rappelle l'année passée avec Marignano. Mmh. Après, il y a l'école, il y a les médias qui inventent des histoires à la James Bond, comme on a eu maintenant avec l'histoire de l'OLP et le pauvre conseiller fédéral Grabert, non, qu'il n'y avait nul de réel, mais il y a un intérêt fort, disons, pour l'histoire. Et après, il y a l'histoire des historiens. Il est vrai que ce processus d'émancipation, et on peut aussi dire peut-être de scientification de l'histoire, parce qu'avec les sciences sociales, il y a eu une implémentation, disons, des autres méthodes qui ont rendu aussi assez difficile, au plus difficile, de communiquer avec un public, parce que on a commencé avec des par exemple des méthodes statistiques, à faire des analyses, et justement, on peut dire qu'il y a une espèce d'histoire des historien, et une histoire qui est un peu dans le public. Et si je pense aux années 90 avec l'histoire des fonds des errances, la situation était un peu paradoxale parce qu'il y avait, disons, d'un côté la communauté des historiens déjà à partir de moitié des années 70, les archives s'ouvrent, donc il y avait de plus en plus de recherches sérieuses, donc on savait beaucoup de choses, et donc il y avait un gros consensus en long terme des historiens suisses sur le rôle de la Suisse à la Deuxième Guerre mondiale. Et après, il y avait le grand public qui était assez choqué. Et donc, probablement, il y a eu un décalage d'un 15e ou 20e d'année.
Et pourtant, Sacha Zala, si on pense la nouvelle histoire de la Suisse et des Suisses, je crois qu'elle est sortie dans les années 1980, parlait déjà de ces choses-là. Oui. Vous avez dit, des années 60, il y avait des rapports assez critiques. Donc, comment, est-ce que c'est pas la preuve que les historiens ont un peu raté quelque chose, peut-être entre les années 60 et 90, de pas réussir à faire connaître leurs travaux? C'était un choc pour le public de découvrir certaines attitudes de la Suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale.
C'est extrêmement difficile et ça c'est aussi une question qui est liée justement au pouvoir. Et les médias même ont un pouvoir. Et donc, certaines fois, comme on l'a vu maintenant dans les derniers mois sur certains scandales, il y a des logiques des médias aussi d'avoir des scandales. Donc, des logiques de communication des médias qui sont séparées, disons, d'une autre logique. Je pense que pour l'historien, c'est important aussi, je veux pas plaider pour l'art pour l'art, ou dans la tour, l'historien dans la tour, mais on n'est pas des journalistes, notre mission est pas en premier, disons, de communication avec le public, ça c'est une autre fonction, que sont des autres acteurs qui doivent faire. Les historiens ont une tâche de chercher, de communiquer, je pense qu'on le faisons, mais non avec l'ouverture des journées suisses d'histoire, ce sont trois jours maintenant où il y a une grande présence, il y a presque virtuellement tous les historiens professionnels.
Et ça se déroule aujourd'hui, demain et après-demain à Lausanne.
À Lausanne, justement, qu'on va ouvrir aujourd'hui. Donc, ça, ce sont des mesures mesure pour être présent, mais je pense aussi que les historiens doivent pouvoir avoir le droit de faire de la recherche de base, parce que c'est seulement avec après la recherche de base qu'on arrive après à s'en servir dans des discours qui sont en public, etc.
Mais ces deux mondes, effectivement, les médias et les historiens qui des fois s'affrontent, se confrontent, l'historien demande du temps, il a besoin de temps. Vous m'avez dit aussi, en préparant cette émission, il y a un nouveau problème qui se pose maintenant, c'est qu'avec cet accès, il y a un accès à l'information, un droit à l'information qui est souvent évoqué par les journalistes, et du coup ça pose des fois des problèmes aux historiens. Expliquez-nous.
Absolument. Il faut voir que jusqu'à il y a une quinzaine d'ans, l'accès aux archives était réglé par la loi fédérale sur l'archivage qui, plus ou moins, prévoit qu'après 30 ans, les documents étaient librement accessibles. Cela, c'était assez bien pour nous parce que 30 ans, ça fait une ou même deux générations de fonctionnaires. Donc, les gens qui ont produit les documents étaient plus là dans le bureau, les documents étaient dans la cave, ça c'est le cas meilleur. On appelle les archives, ils arrivent avec un camion, mais les boîtes dans le camion, ils arrivent aux archives et sont là dans une manière intégrale. Maintenant, il y a cette loi sur la transparence qui, d'un point de vue, disons, d'une théorie de la démocratie, est une bonne chose, mais disons, le but était bon, mais après, ce que s'est mis en place est assez négatif pour les historiens parce que aujourd'hui, les journalistes peuvent demander des documents de Hickenung d'aujourd'hui, donc demander à l'administration, et cela a amené à une politisation de la question de l'archivage. Donc, si une fois les gens pouvaient, disons, mettaient leurs documents et après ils savaient que jusqu'à ils étaient plus ou moins vivants, il y a personne qui les regardait, donc ils n'avaient pas de soucis. Aujourd'hui, l'archivation même est déjà soumise à, disons, une logique politique.
Il y a déjà un filtre, c'est-à-dire que, ou une forme de censure peut-être du pouvoir qui dit attention, peut-être ce document, il faut plutôt le mettre soit d'abord à la poubelle plutôt que de le mettre aux archives.
Oui, il y a des stratégies sur cela. Ce que c'est important de voir, c'est que il y a toujours, surtout dans les médias, une espèce de fétichisme du document, non, surtout le document secret, etc.
Chez l'historien aussi.
Oui, d'une certaine manière, c'est vrai, ça. Mais il faut voir si on voit la complexité d'une administration. Il est vrai qu'on peut toujours cacher des secrets en détruisant un document. Ça, on peut le faire. Après, il est détruit, on ne le sait pas. Mais si ce que dans ces documents va développer une réalité, on va trouver 1000 traces partout. Donc, c'est pratiquement impossible de tout cacher. Je pense notamment à l'histoire de relation de la Suisse avec l'apartheid de l'Afrique du Sud. Le gouvernement pensait qu'en bloquant certains dossiers, on pouvait éviter de l'historiographie. Il y avait presque déjà tout dans les journaux de l'époque. Il y avait des copies dans tous les autres dossiers. Donc, la réalité dans une administration complexe, c'est que s'il y a quelque chose qui sont mis en place dans la réalité, c'est impossible de l'effacer parce qu'il y aura des milliers de traces partout.
Vous le disiez aussi en début d'interview, il y a cette possibilité pour le pouvoir de manipuler, non pas en cachant, mais en sortant certains documents au moment voulu.
Oui, l'exemple plus fameux, ce sont les bolcheviks. En 1917, Lénine, dans le décret sur la paix, il dit, dans la première page, il dit, comrade, on va faire une paix sans contribution. Dans la deuxième page, il va dire, comrade, on va ouvrir les archives. Et c'est vrai, ils vont ouvrir les archives du tsar. Alors, il faut voir que le tsar était allié du pouvoir de l'entente, donc la France et l'Angleterre. Et ces documents-là montraient clairement que les documents qui l'Angleterre, la France avaient publié avant le début de la guerre 1914, donc dans l'été 1914, étaient falsifiés, qui n'étaient pas vrais. Donc là, en publiant ces documents dans la Pravda, Lénine a vraiment créé des scandales à niveau planétaire. Je pense notamment au traité secret de 1915 avec lequel les Alliés ont pris l'Italie en guerre en faisant des promesses territoriales très importantes comme le Tyrol du Sud, l'Istrie et la Dalmatie, ou le fameux accord Sykes-Picot où on voyait la politique très ambiguë des Anglais qui avaient promis la Palestine et aux Juifs et aux Palestiniens.
Oui, donc c'est compliqué, effectivement. Des documents peuvent aussi être sortis à bon escient. Sur le rapport de l'historien et du pouvoir, est-ce que vous avez l'impression que la Suisse, c'est différent que par exemple d'autres pays européens, l'Allemagne, la France?
Une des différences de la Suisse est naturellement la longue continuité de l'État. Par exemple, aux États-Unis, avec un système bipolaire, avec deux partis, il y a notamment certaines fois une administration qui a l'intérêt de montrer les fautes de l'ancienne administration et donc elle va pousser la publication des documents. Et ça, naturellement, en Suisse, on l'a pas, on a cette longue continuité. Et donc, on peut dire que de manière générale, l'administration pense plutôt à garder une continuité, à bloquer plutôt l'accès que ouvrir.
Merci beaucoup Michel Zala. Je rappelle que vous êtes président de la Société Suisse d'Histoire et directeur des documents diplomatiques suisses. On a parlé du rapport des historiens et du pouvoir aujourd'hui. Et pour celles et ceux qui désirent poursuivre cette réflexion sur l'histoire et le pouvoir, sachez que, on l'a évoqué, les 4e journées d'histoire suisse se déroulent dès aujourd'hui et jusqu'à samedi à l'Université de Lausanne et qu'elles se penchent justement sur cette question. Ces journées sont ouvertes au public et vous y serez d'ailleurs, Sacha Zala, c'est juste ?
Juste.
Vous allez faire un discours d'ailleurs même, m'avez-vous dit. En tout cas, merci et bonne journée du côté de Lausanne.
Bonjour à tous.
Merci. Et merci à Jean-Claude Gaï et à Isabelle Barthes à la technique aujourd'hui pour Tribu et à Céline Zuffray pour l'assistanat de production et à Nathalie Schauenberg pour le choix musical. Nous sommes bien sûr sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Vous pouvez nous écrire tribu@rts.ch et demain, nous parlerons des propos de bistrot. Eh oui, des propos de bistrot. Mais d'ici là, vous avez rendez-vous avec Laurence Bizang et ses décodeurs. Je vous souhaite la plus belle des journées.
Tribu, Julien Magnolet.
Infotrafic RTS.
Sur le contournement de Lausanne, un véhicule en panne perturbe la circulation entre Lausanne-Bleschéret et Lausanne-Veynes en direction de Vevey. Et en ville de Neuchâtel, la rue de la Maladière est toujours fermée dans les deux sens entre la rue Jacques-Drault et Gibraltar en raison d'une fuite de gaz.